Oui, nous poursuivons notre commentaire, notre parcours de la première épître aux Corinthiens. Ça va nous occuper quelque temps. Hein. Il y a pas mal de chapitres dans cette épître. Et nous n'avons la dernière fois fait que 3 versets. Alors, je vous rassure, on en fera un petit peu plus aujourd'hui. La dernière fois, nous avons donc parcouru la première partie de l'introduction qui concernait les salutations de l'apôtre à la communauté des chrétiens de Corinthe. Et nous avions mis en évidence qu'en 3 versets, Paul avait posé tout de même 3 choses essentielles, qui étaient la purification de nos péchés dans notre union à Jésus-Christ, notre appartenance au peuple saint, l'Église universelle, dans son expression locale, à Corinthe en l'occurrence, et ceci par appel, par vocation pour toute une vie, adressé à tous ceux qui s'en remettent à Jésus-Christ où qu'ils se trouvent. Et nous poursuivons notre lecture à partir du verset 4. Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à mon Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a accordée dans l'union avec Jésus-Christ. En effet, vous avez été comblés en lui dans tous les domaines, en particulier celui de la parole et celui de la connaissance, dans la mesure même où la vérité dont le Christ est le témoin a été fermement établie chez vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don de la grâce divine, tandis que vous attendez le moment où votre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Lui-même, d'ailleurs, vous rendra fort jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, car Dieu, qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est fidèle. Nous sommes toujours dans la partie introductive de la lettre. Et après les salutations, Paul, comme à son habitude, rend grâce à Dieu pour les bonnes choses qui caractérisent son Église à Corinthe. Et en cela, il respecte une des règles de la rhétorique antique qui veut que, avant d'en venir au but d'une lettre, son auteur exprime des compliments et des louanges à ses destinataires. Ainsi, Paul, on le voit, loue les Romains pour leur foi devenue célèbre dans le monde entier. Aux Philippiens, il exprime sa joie pour leur zèle dans l'annonce de l'Évangile, dans l'amour. Les Colossiens se distinguent à ses yeux par leur foi et leur amour fraternel. Et peut-être les Thessaloniciens sont ceux qui remportent le plus de louanges dans la mise en œuvre concrète de ces mêmes choses, dans la persévérance, malgré les persécutions. Néanmoins, que Paul ne donne pas non plus pour autant dans la flatterie. Souligner les points positifs, dans la mesure où, bien sûr, ils correspondent à la réalité, ça donne du crédit à l'évaluation que l'apôtre dresse sur chacune de ses communautés. Et c'est vrai que si ses propos n'était que reproche, ce serait très démotivant et de nature à s'interroger sur l'objectivité et la bienveillance de l'auteur à l'égard des Églises. Mais, car il y a un mais, nous l'avons dit la dernière fois, cette première épître nous met, et on va le découvrir aujourd'hui même, nous met face à la consternation et parfois à la colère d'un apôtre découvrant l'inconséquence entre la foi professée et la vie menée par les chrétiens de cette ville. Et le problème ici, c'est que Paul ne trouve pas de points positifs à mettre au crédit des chrétiens. Ah, peut-être ça vous étonne, des chrétiens de Corinthe, peut-être ça vous étonne, mais en regardant-y de plus près, et ce que nous découvrons, ce n'est pas à eux qu'il fait crédit des points positifs de cette Église, mais à Dieu. Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à mon Dieu, à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a accordée dans l'union avec Jésus-Christ. En effet, vous avez été comblés en lui, dans tous les domaines, en particulier celui de la parole et celui de la connaissance. Ainsi, il ne vous manque aucun don de la grâce divine. Les dons, c'est quelque chose qui est reçu, tandis que vous attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. cette façon de souligner l'action de Dieu dans la communauté, plutôt que les efforts de ses membres, n'est pas unique. On la retrouve dans quelques autres lettres, mais elle tranche vraiment avec plusieurs autres lettres, et je vous cite deux exemples. Aux Romains, tout d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Ça, c'est ce que Paul dit aux Romains. Et aux Thessaloniciens, comme je disais, qui remportent un peu la palme des compliments de l'apôtre Paul, nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous, lorsque dans nos prières, nous faisons mention de vous. Nous nous rappelons sans cesse, devant Dieu notre Père, votre foi agissante, votre amour actif, et votre ferme espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bien sûr, la reconnaissance dans tous ces textes va à Dieu, comme ici, dans les premières épîtres aux Corinthiens, mais son objet, ce sont bien les efforts et les mérites des membres de la communauté, de ces deux exemples, et qu'on ne trouve pas dans notre épître, la première épître aux Corinthiens. Et lorsqu'on connaît la suite, que nous allons aborder dans quelques minutes, ça renforce vraiment, cette considération renforce vraiment le caractère incompréhensible de ce qui se passe au sein de la communauté, car en pointant tout ce qu'elle a reçu de Dieu, la diversité et la richesse de ses dons, la manifestation d'une grâce exceptionnelle à leur égard, Paul établit par avance le côté inexcusable des fautes qu'il s'apprête à leur reprocher. Et le pire, et ça nous le verrons dans le chapitre 4, c'est que le Corinthien se croit déjà arrivé à un niveau exceptionnel. Ce que Paul s'apprête à démontrer, c'est qu'au contraire, ils ont pris du retard. Un peu comme des enfants gâtés, ils ont pris les nombreuses bénédictions reçues comme un dû, voire peut-être comme une juste rétribution, sans se soucier de la responsabilité accrue que ces bénédictions leur conféraient. Néanmoins, et là je cite Robert Somerville dans son commentaire aux éditions Edifac, un commentaire qui a beaucoup inspiré cette série de prédications et que je reciterai à plusieurs reprises aujourd'hui. Néanmoins, Paul n'est pas tant obnubilé par leur faiblesse, tellement enfermé dans les soucis qu'il lui donne, qu'il est incapable de voir les raisons qu'il y a de se réjouir. En effet, si dans cette ville païenne qu'est Corinthe, il y a une église, c'est que son travail missionnaire a porté des fruits, que l'Évangile a démontré sa puissance et que des hommes et des femmes se sont convertis à Jésus-Christ. Comment n'en serait-il pas heureux? Mais il n'en est pas satisfait. En tant que fondateur de cette église, il est heureux de sa naissance et même de ses moindres progrès, à l'image d'un père envers son enfant. Mais il ne peut se satisfaire de voir cet enfant marcher en chancelant ou parler comme un bébé jusqu'à l'âge de 20 ans. Ainsi, il rend grâce pour ce que Dieu a fait aux Corinthiens et non pour ce que les Corinthiens font pour Dieu. Si l'Église de Corinthe rencontre des difficultés, ce n'est pas parce que Dieu s'est montré parcimonieux dans ses dons, mais parce que les Corinthiens en ont fait un mauvais usage. Et donc la confiance qu'il exprime au verset 8 ne se fonde pas sur la solidité de la foi des Corinthiens, puisqu'il dit lui-même, en parlant de Jésus-Christ, le Seigneur vous rendra fort, mais se fonde aussi avant tout sur la fidélité de Dieu, telle que nous le voyons au verset 9, comme c'est souligné. Dieu est fidèle, et j'ai presque envie d'ajouter « lui ». Voyez donc, allons un petit peu plus loin pour voir ce que Paul reproche aux Corinthiens. Je vous avais prévenu la dernière fois, la première lettre aux Corinthiens n'est pas quelque chose qui gratte notre dos, c'est quelque chose qui a tendance un peu à piquer. Et donc, parce que bien sûr, on se reconnaît partiellement dans certaines des descriptions qui sont faites, et donc ça fait aussi partie de notre éducation, de notre croissance chrétienne, que de nous inspirer de de ce que d'autres chrétiens avant nous ont vu, ont vécu, même si c'est négativement. Nous prenons donc les versets à partir des versets, du verset 10. Et là, on entre vraiment dans le but de la lettre. Il faut cependant, frères, que je vous adresse une recommandation instante. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. En effet, mes frères, j'ai été informé par les gens de la maison de Chloé que la discorde règne parmi vous. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous tient ce type de langage. Moi, je suis pour Paul. Moi, pour Apollos. Ou moi, pour Pierre. Ou encore, et moi, pour le Christ. Voyons, le Christ serait-il divisé? Paul aurait-il été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je remercie Dieu de n'avoir baptisé aucun de vous, sauf Crispus et Gaius. Personne, en tout cas, ne peut prétendre avoir été baptisé en mon nom. Ah si, j'ai baptisé encore les gens de la maison de Stéphanas. À part cela, je ne crois avoir baptisé personne. Car ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé, c'est pour proclamer la bonne nouvelle. Et cela sans recourir aux arguments de la sagesse humaine, afin de ne pas vider de son sens la mort du Christ sur la croix. Paul adresse aux Corinthiens une recommandation instante, ou une exhortation, selon les traductions. Et formulée ainsi, elle ne se veut pas comme l'ordre d'un chef à ses subordonnés, mais comme l'appel d'un père à ses enfants. La qualification de frère, cet appel aux frères, frères et sœurs dans la Bible Semeur, les responsabilise les uns envers les autres. Et la raison de cette recommandation, donc telle que nous le lisons ici, réside dans une nouvelle alarmante que l'apôtre aurait reçue des gens de la maison de Chloé. Alors, nous ne savons rien sur cette Chloé, rien de plus que ce qui nous est dit ici, à savoir que des gens, peut-être des employés, des esclaves de cette Chloé, semblaient voyager, peut-être professionnellement, entre Corinthe et Éphèse, où se trouve Paul lorsqu'il écrit cette lettre. Ces gens sont donc très probablement également des frères et des sœurs en Christ, puisqu'ils confient à Paul leurs préoccupations au sujet de la discorde naissante au sein de leur communauté à Corinthe. Comment cette discorde se manifeste-t-elle? Par l'émergence d'écoles de pensée, chacun se réclamant d'un maître à penser. Pour qui Paul? Pour qui Apollos? Pour tel autre Pierre? Bon, pour qui enfin le Christ? J'imagine très aisément la scène.
À ce Paul, quel formidable évangéliste! Oui, mais nous n'irons pas loin si nous n'avions pas un prédicateur comme Apollos.
Je vous rappelle tout de même que Jésus a désigné Pierre comme chef de l'Église. Moi, je ne m'appuie pas sur les hommes, je m'en réfère à Jésus-Christ.
Bravo, hein? Nous le verrons dans les chapitres suivants. Paul reviendra sur cet état de fait à plusieurs reprises, car il est consternant à plusieurs titres. Mais avant cela, il en tire la conclusion qui s'impose. Les Corinthiens sont en train d'emprunter un chemin qui mène à la division. Le sens premier du mot grec traduit par « diviser » évoque un accroc, une déchirure. La communauté n'a pas encore éclaté en groupes séparés, l'unité n'est pas définitivement brisée, mais elle est menacée par des tendances divergentes, des prises de position des uns et des autres s'ils se rangent derrière un leader. Et cet esprit de dispute et de rivalité est tellement répandu sur la communauté qu'il suscite une mentalité à laquelle il est difficile de résister. Et c'est ce que nous laisse entendre la formule « chacun dit », même si cela ne concerne pas forcément tous sans exception. Il ne semble pas que les conflits soient d'origine doctrinale, mais plutôt liés à des personnes. Chacun se réclame d'un maître, et les maîtres en question sont nommés. Ils sont quatre: Paul, l'apôtre fondateur de la communauté, Apollos, un prédicateur local, zélé et éloquent, Pierre, l'un des apôtres les plus proches de Jésus, et enfin le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et je vous propose de les passer en revue. Comme je viens de le dire, Paul est le fondateur de la communauté de Corinthe. Et donc à ce titre, il occupe une place particulière dans son histoire. Il est possible qu'un attachement à sa personne a pu se développer, surtout de la part de ceux qui ont rencontré le Seigneur grâce à sa prédication. Mais cet attachement naturel, au demeurant, mais ne doit pas dégénérer en partisanerie, peut-être aujourd'hui on dirait followers, hein, tel que nous le voyons ici. Ici, comme dans toute la suite de la lettre, nous voyons Paul s'en désoler. Il n'encourage absolument pas ce genre de choses. On le voit consterné par l'existence de cette forme de dévotion, de vénération, qui qu'en soit l'objet et lui compris. Apollos, nous faisons sa connaissance dans le livre des Actes. Il s'agit d'un juif converti, originaire d'Alexandrie, qui se caractérisait par son zèle et son éloquence à démontrer aux Juifs, par les Écritures, que Jésus était le Messie annoncé par les prophètes. Dans le contexte sophiste, de l'époque, les orateurs de sa trempe rivalisaient pour s'attirer des disciples. Cependant, rien ne dit, ni dans les Actes, ni ici, que Paul cultivait son aura ou quelque autre forme d'adhésion à sa personne. Nous voyons, j'ai dit Paul ou j'ai dit Apollos ? Apollos, hein, oui. Rien ne dit qu'Apollos cultivait son aura. Voilà. Nous voyons au contraire que Paul le considère, comme Apollos, comme un collaborateur digne de confiance et se réjouit de la manière avec laquelle il a pris la suite après son départ de Corinthe. Par contre, il ne serait pas surprenant que certains de ceux qui trouvaient que Paul, que certains de ceux qui admiraient Paul trouvaient qu'il manquait de prestige. Oh là là, je me mélange. Il n'y en a que quatre, hein, pourtant. Il ne serait pas surprenant que certains de ceux qui trouvaient que Paul manquait de prestige et d'éloquence se soient laissés à suggérer une rivalité entre Paul et Apollos. Passons à Pierre ou Céphas, selon les traductions. Il est vraisemblable que ses partisans étaient des judéo-chrétiens, que la liberté de Paul à l'égard de la loi juive, effrayait. Les questions de la circoncision, des viandes sacrifiées aux idoles, des repas partagés avec les non-juifs mettaient mal à l'aise les chrétiens issus du judaïsme. On touche là probablement à une sensibilité au légalisme, hein, qui a troublé l'Église durant tout le premier siècle et sans doute même au-delà. Sous d'autres formes et des thèmes différents, la tension entre la liberté que nous avons en Christ et le légalisme subsiste de nos jours au sein des Églises, entre les Églises, sur d'autres thèmes, en employant d'autres formes. Mais pas plus qu'Apollos, Paul ne considère Pierre comme un rival. Et nous en arrivons au Christ. Qui sont donc ceux qui en font leur signe de ralliement? Est-ce que ça ne devrait pas être le cas de tous les chrétiens, de nous tous? Nous sommes tous de Christ. Bien évidemment, mais si il nous faut quand même, tout de même discerner la subtilité malsaine qui se cache sous cette déclaration grandiloquente. Ce sont ceux qui disent « Moi, je ne m'en réfère pas aux hommes, mais à Dieu seul. » Ceux qui, en fin de compte, n'écoutent ni Paul, ni Apollos, ni Pierre, n'écoutent soi-disant que Dieu, mais en réalité eux-mêmes. Ce sont les super spirituels, ceux qui prétendent que leur relation directe avec Dieu les dispense de l'enseignement de l'Église, qui ne reconnaissent pas que Dieu leur parle aussi par leurs frères et leurs sœurs avec qui ils forment l'Église. Leur tort n'est pas de dire qu'ils appartiennent au Christ, mais de se comporter comme si le Christ leur appartenait. S'érigeant propriétaires du Christ, en détenteurs de la vérité, ils sont peu ouverts à l'introspection et suivent leur propre voie, sans ajuster leur regard et leur comportement, sans égard pour le discernement collectif. Sous couvert de porter bien haut l'étendard du Christ, c'est l'orgueil spirituel qui les anime. Eux sont au-dessus. Comme Paul, ils vont désapprouver ce qui se donne Paul, Apollos ou Pierre comme maître à penser, mais ce n'est que pour mieux satisfaire leurs propres besoins d'être écoutés et suivis. Et ce ne sont pas les moins dangereux. Aujourd'hui, ils pullulent sur Internet et sur les chaînes YouTube. Ce que nous soulignons tout d'abord concernant Paul, Apollos et Pierre, et là je mets Christ à part, c'est que chacun d'eux est au-dessus de tout soupçon quant à la volonté de fonder sa propre école de pensée, quant à être à l'origine de ses rivalités. Paul, lui, s'en désole. On le voit ici. Ce n'est pas ça qu'il voulait en fondant l'église de Corinthe. Nous avons le regard d'un père profondément attristé de voir ses enfants se déchirer et plus encore peut-être d'être lui-même l'objet de la dispute. Apollos, on le connaît moins, mais rien dans le Nouveau Testament ne nous permet de soupçonner qu'il cultiverait son aura, que son zèle et la mise en œuvre de son éloquence exceptionnelle servent à autre chose que l'annonce de l'Évangile. Paul n'exprime rien dans cette épître qui traduirait l'ombre d'une rivalité entre eux, pas plus d'ailleurs que Luc dans les Actes. Quant à Pierre, est-il venu seulement une seule fois à Corinthe ? Rien ne permet ni de l'affirmer, ni de le contester. Sur quelle base reposerait l'hypothétique école de pensée dont il serait à l'origine ? Peut-être que son statut d'apôtre et de responsable de la première église à Jérusalem, on pourrait dire la mère de toutes les églises. Il y a souvent de cela dans la pensée collective, et ce titre-là est une petite anecdote qui ne remonte pas à longtemps. Il y a deux semaines, comme vous le savez, nous avions un baptême au pays de Lafayette et nous avions la visite de notre référent au sein de la Fédération Baptiste. Et l'ayant présenté comme tel, des personnes nous ont demandé si c'était notre pape. Peut-être Pierre a-t-il écrit des lettres à l'église de Corinthe, mais nous n'en avons pas trace. Ou bien peut-être des judéo-chrétiens ayant voyagé à Jérusalem et écouté son enseignement. Diverses origines peuvent être évoquées, mais en tout cas, rien ne permet de discerner chez Pierre une volonté d'introduire quelque école de pensée que ce soit dans l'église de Corinthe, sans parler de la distance qui rendrait la chose particulièrement compliquée à cette époque. Nous pouvons voir, je pense, dans l'évocation de son nom, que le parti pris de personnes se sentant fortes de leur référence à son indiscutable autorité, le côté indiscutable renforçant le parti pris. Pour ce qui est du Christ, c'est un peu différent. Il est bien évident que nous sommes par nature et par destination à son école. Bien au-dessus des maîtres humains, il est notre maître par excellence. Sa parfaite unité dans la Trinité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit est le modèle de communion qu'il nous demande d'imiter dans l'Église. Sa parole n'est pas divisée entre les trois personnes. Nous n'avons pas ici dans la Bible, là, la pensée du Père, ici la pensée du Fils, et là encore la pensée du Saint-Esprit. Il est évident que, concerne ces quatre personnes, le Christ, Pierre, Apollos et Paul, aucune n'est à l'origine des rivalités qui se font jour dans cette Église et qui menacent sa cohésion. Ce sont les Corinthiens eux-mêmes, ou tout au moins certains d'entre eux, qui se livrent à ce petit jeu tellement prisé par la culture ambiante de l'époque, et peut-être que cette culture est aussi la nôtre aujourd'hui. Je ne parle pas dans l'Église, mais la culture ambiante, hein, mais tellement nuisible à l'unité de l'Église. On appelle cela l'instrumentalisation. Faire sienne l'image d'une personne reconnue, une figure d'autorité, l'utiliser pour donner du corps à ses opinions, pousser les décisions dans son sens et au fond exercer une forme de pouvoir sur la communauté. C'est très humain, mais ce n'est pas ce que le Christ a voulu pour son Église. Et en fait, il n'y a pas 36 manières pour désamorcer le processus, il n'y en a même qu'une seule. La première est essentielle, c'est un préalable en quelque sorte, c'est qu'une réelle unité règne entre ceux qui ont été érigés, malgré eux, en maîtres à penser, afin de ne pas laisser prise à la division. Et je ne parle pas tant d'une unité de pensée qu'une unité de corps, car nous le savons, la diversité est une richesse collective. On sait, Paul et Pierre se sont opposés sur la conduite à tenir au sujet des repas partagés avec les païens. Mais il s'agissait d'un épisode isolé, et on sait qu'ils se sont mis d'accord sur la nature de leur ministère respectif, en reconnaissant que Dieu les envoyait chacun vers un public différent, Pierre vers les Juifs et Paul vers les païens. Pierre était fondamentalement d'accord sur le contenu de l'Évangile, tout en reconnaissant des différences dans la mise en œuvre, selon les populations concernées et l'aptitude de chacun à y faire face. Ils ont unanimement et définitivement refusé de céder à la rivalité. Et le deuxième moyen, la deuxième chose, ce préalable étant établi, il s'agit que pour chacun des maîtres à penser, qui ont été, malgré eux, hein, j'insiste bien là-dessus, si ce sont des personnes qui les ont érigés en maîtres à penser, ils ne sont pas érigés eux-mêmes, que chacun de ces maîtres à penser exprime sa désapprobation envers ses propres partisans. Et c'est exactement ce que Paul fait ici. Et donc, pour ce qui le concerne, il va veiller à ne laisser aucun doute quant à son unité avec Apollos et Pierre. Il ne laisse pas paraître la moindre fissure avec eux, qu'il reconnaît comme serviteur de Dieu au même titre que lui. Un peu plus loin, même, il reconnaîtra l'importance du rôle d'Apollos dans un parallèle qui est bien connu, je pense. Hein, j'ai planté, Apollos a arrosé, et ce qui met tout le monde d'accord, c'est que c'est Dieu qui fait croître. Et nous y reviendrons. Et ensuite, il va s'adresser à ceux qui se réclament de lui. Paul aurait-il été crucifié pour vous, ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Il leur fait comprendre à quel point se rassembler autour de son nom est absurde. Et ceci est tout aussi valable pour les partisans de Pierre et d'Apollos, même si ici il les ménage en se gardant de citer nommément les deux autres. En mentionnant leur baptême, Paul rappelle implicitement aux Corinthiens que c'est au nom de Jésus qu'ils ont été baptisés, probablement même au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi que Jésus nous l'a recommandé. Ça met tout le monde d'accord. Ce qui compte, c'est au nom de qui le baptême est administré, au nom de Jésus, et non celui par qui il est administré. Le baptiseur est secondaire. Le lien le plus fort est celui qui s'est créé entre le croyant et son Seigneur. Et vraiment, c'était, je pense, important, et peut-être ça doit l'être toujours pour nous aujourd'hui, dans un contexte païen où la transmission se faisait sous forme de rite initiatique. Personne ne devient le disciple de celui qui l'a baptisé dans le baptême chrétien, quelque part qu'il ait pu prendre par ailleurs dans son cheminement spirituel. Et la suite tombe comme si Paul, finalement, tout à coup, se souvenait qu'il n'a pas baptisé grand monde à Corinthe. De rares noms lui reviennent progressivement, Crispus et Gaius. Est-ce et puis ah si, j'ai il y a Stéphanas aussi, la maison de Stéphanas que j'ai baptisée. Il faut faire un effort de mémoire intense pour que ça revienne. On peut se poser la question si c'est intentionnellement qu'il s'est abstenu de baptiser afin de contrer préventivement un risque d'attachement des baptisés à sa personne, ou est-ce que ça est arrivé fortuitement. Quoi qu'il en soit, il s'en félicite. Et ça le ramène au but de son ministère, proclamer l'Évangile, arriver dans un nouveau lieu. Il baptise les premiers disciples, et c'est le cas de Crispus et Gaius, c'est ce que nous lisons dans le livre des Actes, ce qui passe dès l'arrivée de Paul à Corinthe. Et puis, ayant donné l'élan, les disciples baptisent à leur tour les nouveaux baptisés, les nouveaux disciples. Et donc, nous voyons ici comment Paul se dégage, agit pour se dégager de l'instrumentalisation dont il a pu faire l'objet, pour couper court aux tendances partisanes. Tendances partisanes qui ne sont pas, on l'a déjà dit, une division consommée, mais qui menacent l'unité de la communauté. Je vous propose de revenir quand même sur les trois questions que Paul pose aux Corinthiens. Voyons, le Christ serait-il divisé ? Paul aurait-il été crucifié pour vous ? Ben non. Ou bien, est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé ? On vient de le dire, mais non. Et donc, la réponse à la première question est évidente. Non, le Christ n'est pas divisé. Que serait un Christ divisé ? Y aurait-il des fragments de Christ, des morceaux de Christ distribués à chacun des groupes représentés ? Si nous avons Jésus-Christ, nous l'avons tout entier. Il ne peut pas être divisé. L'idée même d'un Christ divisé, déchiré entre les groupes rivaux est absurde. Et d'ailleurs, comme l'unité de la personne de Christ entraîne nécessairement l'unité de l'Église, les divisions de l'Église de Corinthe sont inconcevables. Je reviens sur un verset de notre texte, le verset 9. Car Dieu qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est fidèle. Et je voudrais terminer ce message par quelques propos sur ce qu'est la communion et ce qu'elle n'est pas. Et là, je reprends encore l'expression de Robert Somerville. Dans le Nouveau Testament, la communion ne dépend pas d'un état d'esprit. Elle se fonde sur une réalité objective à laquelle tous ont part. Elle implique une mise en commun, un partage, une communauté, et non une union de pensées et de sentiments. Et donc, être en communion, c'est avoir quelque chose en commun, quelque chose d'essentiel. Et ce que nous avons en commun, c'est Christ, bien évidemment. Sa grâce, son amour, son œuvre rédemptrice, son salut, son esprit, nous avons tout cela en partage. Il s'agit d'une réalité objective, créée et donnée par Dieu. Rien de cela ne dépend d'un accord de pensée ou d'une chaleur de sentiment. Il n'en demeure pas moins que la communion doit être entretenue par les attitudes et les actions humaines, et qu'à l'inverse, elle peut être affaiblie par des comportements qui la blessent. Dans la pratique, il y a des moments où il est plus difficile de prendre conscience de cette communion. Il y aura toujours des situations où nos pensées et nos sentiments s'y refuseront à cause d'une offense, d'un désaccord profond, d'une jalousie, d'une rivalité, d'un conflit d'intérêts, et que sais-je encore. Paul nous rappelle la liberté, la réalité fondamentale. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ sont unis à lui parce que frères et sœurs, membres d'une même communauté, d'un même corps. Tous les membres sont au service du corps, sans rivalité, sans parti pris, sans préséance. Tous les membres se laissent dépendre de la tête, le Christ. Aucun n'en fait qu'à sa tête. Tous les membres sont membres les uns des autres. à nous d'en tirer les conclusions.